m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Grande, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, il est 17h30. Bienvenue dans Restons Courtois, l'émission débat. Chaque jour en direct, donc sur Radio Courtoisie, de 17h30 à 19h30, en partenariat avec les médias Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et le magazine L'Incorrect. Au programme de cette émission, comme chaque mercredi, deux invités. Nous recevrons tout d'abord Hélène Delauzin, correspondante à Paris de l'excellente revue The European Conservative, on va le dire à la française, et qui publie chez Talendier Johann Strauss, l'empereur de la valse. Hop, le voici, le livre, il est là. Donc vous l'aurez compris, on va se plonger dans l'époque de Vienne au début du XXe et on va valser. À 18h30, nous recevrons Thomas Morales, écrivain et journaliste, auteur de livres et de chroniques délicieuses sur la culture populaire, le cinéma, la littérature, l'automobile, le barbecue, les bistrots, bref, la France qui sent bon le rance que déteste Sandrine Rousseau, et bien d'autres choses, et qui publie donc aujourd'hui un roman, Les Tendresses de Zanzibar, qui est ici. Hop, voilà, vous le voyez comme ça, aux éditions du Rosset. Je vous annonce également, chers amis, la sortie du nouveau numéro de L'Incorrect, programme chargé, car nous avions au moins de quoi faire 4 unes. Et oui, au moins 4 unes. Donc, ça veut dire qu'on a en une destin français, le destin croisé de trois personnalités qui ont le point commun d'être âgées entre 30 et 40 ans, à savoir Marguerite Stern, Marguerite Maréchal et Alexandre Devecchio, donc une ancienne militante, une politique et un journaliste qui viennent d'horizons différents, et qui se rejoignent à l'orée de la quarantaine sur la France. Et donc nous avons décidé de les emmener dans la basilique, à la basilique Saint-Denis, territoire occupé comme on dit, ou peu prochainement libéré peut-être. Bref, un lieu hautement symbolique, et nous les avons donc fait converser dans cette rente mémorielle de leur histoire, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qui les différencie, de ce qui leur point commun, et surtout de ce qu'ils pensent de la France et comment ils voient la France dans les prochaines années. Nous avons également, et ça c'est Romaric Sangars qui est ici, qui s'en est occupé, le grand retour de Michel Houellebecq en musique. Et oui, parce qu'il sort un album magnifique, vous l'imaginez pas très positif et plutôt crépusculaire, mais au moins il s'est réconcilié avec son pessimisme, et si on va tous crever, au moins ça va le faire, et ça va le faire doucement, sympathiquement, grâce à sa petite voix et ses poèmes merveilleux. L'album s'appelle « Se souvenir de l'homme ».
Pardon Arthur, la musique de Frédéric Lau, qui est somptueuse pour accompagner les textes de Houellebecq.
Exactement, Frédéric Lau qui a notamment composé, vous savez, les deux derniers disques de Daniel Darc, 2004 et 2008, « Crève-cœur » et « Amour suprême », des chefs-d'œuvre, et qui a également composé pour Alain Chamfort et pour Pete Doherty. Donc autant vous dire qu'il sait souvent bien s'accompagner, le Frédéric Lau. Nous avons également une contre-enquête de Renaud Camus, puisque vous n'ignorez pas de le savoir, deux extrêmes gauchistes du Monde ont publié un pamphlet détestable sur Renaud Camus. Eh bien, nous avons convoqué Quentin Fervard, qui a partagé une partie de la vie de Renaud Camus, puisqu'il a travaillé avec lui dans son château, et qui nous a fait un contre-témoignage passionnant, d'autant que Quentin Fervard, en plus, a été en cagne avec l'un des sbires du Monde. Donc c'est assez amusant. Vous retrouvez également dans ce numéro le grand retour de Xavier Giannoli. Vous savez, ce cinéaste qu'on avait quitté avec l'adaptation des Illusions perdues de Balzac et qui revient sur une grande fresque sur la collaboration. Et oui, donc un sujet ô combien délicat, ô combien casse-gueule. La collaboration, étant donné qu'il met en scène un grand mania de la presse de gauche, et oui, il n'y avait pas que des gens de droite, et surtout des gens de gauche, et c'est bien de le rappeler, et l'histoire de ce personnage, de sa fille, de sa famille, dans cette France occupée, dans cette France collaborationniste, et c'est, voilà, nous avons fait un Marco Brégon, que vous connaissez, que vous entendez régulièrement ici, a vu le film, a fait un grand papier très intéressant. Vous avez également au programme Marcel Gauchet qui revient avec un livre une nouvelle fois magistral qui nous raconte les idéologies du 19e jusqu'à aujourd'hui, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Et puis il y a plein d'autres choses, vos chroniques habituelles, vous retrouvez évidemment l'excellent Richard de Sèze dans la chronique des fabots dans Casquette de droite. Alors aujourd'hui ça sera, je crois, les trottoirs mouillés sont-ils de droite? Donc je vous laisse le soin de découvrir s'ils sont de droite ou s'ils sont de gauche, et puis les chroniques habituelles. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, eh ben, Romaric Sangars, que vous avez entendu, directeur de la rédaction des pages culture de l'Incorrect, ou rédacteur en chef des pages culture de l'Incorrect. Romaric, bonjour.
Bonjour Arthur.
Et également Rémi Carlu. Rémi Carlu, rédacteur en chef adjoint. Bonjour Rémi.
Bonjour Arthur.
Et alors chers auditeurs, Rémi Carlu a 30 ans. Et oui, avec sa
bon anniversaire
et ses petites lunettes comme ça. Ben, il a 30 ans.
Ma vie publique démarre aujourd'hui. Voilà, je me le répéter depuis ce matin. Voilà.
30 ans, donc autant dire, il passe la troisième dizaine, ça lui fait mal. Et vous savez que cet odieux personnage est fan du club de Chelsea, un club anglais de Londres, qui joue contre le Paris Saint-Germain en football aujourd'hui. Vous savez que les studios de Radio Courtoisie sont collés au Parc des Princes, le stade de foot du PSG. Autant vous dire, pour y accéder, bah, c'est... assez compliqué pour se guérir, je vous raconte pas. Bref, c'est sûrement pourquoi Hélène Delozan est à la bourre. Alors, c'est une femme aussi, évidemment, donc forcément, elle est en retard, mais aussi parce que bah, c'est très compliqué d'y accéder. Parce que vous savez, depuis que ce club de foot a été racheté par le Qatar, ils font les choses en grand, parce qu'ils voient les choses en grand, évidemment. Et donc, et bah, ils ferment toutes les routes. Voilà. On ne peut pas y accéder, parce que le principe étant, non pas d'avoir des supporters dans les tribunes, mais des stars. Comme ça, on les filme et on montre, regardez comme c'est beau, ça s'appelle du soft power à nos frais, et on est content. Et des supporters.
Une puissance étrangère, hein, donc.
Une puissance.
Arthur m'a fait passer pour le parti de l'étranger, puisque je soutiendrai un club anglais, mais bon, on rappellera que le PSG n'est plus aussi français qu'il le fut.
Exactement.
Et alors, pourquoi Rémi Chelsea?
Oh, c'est une vieille histoire, mais ça fait 20 ans maintenant, tu vois, donc deux tiers de ma vie que je supporte ce club.
Oui, mais pourquoi alors?
Eh bien, écoute, racontons cette anecdote. Ça date de 2006, donc. Et 2006, je suivais un petit peu le football, je jouais au foot dans mon village, et il se trouve que France Télé, à l'époque, diffusait la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations, c'était la finale, Côte d'Ivoire-Cameroun, et le capitaine de la Côte d'Ivoire s'appelait Didier Drogba, bien connu des fans de Marseille, puisqu'il a... effectué à l'époque, jadis, une très très belle saison sous les couleurs de l'OM. Et donc il se trouve qu'il a, en tant que capitaine de la Côte d'Ivoire, il a perdu cette finale. Et ses larmes de désarroi m'ont beaucoup ému. Oh. Donc je me suis mis à suivre ce joueur, à me renseigner sur lui, à le suivre. Et puis voilà, bonhomme à l'an, je suis devenu, par la force des choses, un supporter de cette équipe anglaise, certes, mais brillante, pareil.
Déjà que les auditeurs
par de... C'est ça, exactement.
Les auditeurs du tragique de Radio Courtoisie, je pense que le football et eux, ça fait deux. Alors, avec les Anglais, je ne vous raconte pas. Je pense qu'ils ont tous quitté la fréquence. Alors, parlons un peu on va revenir un peu sur le magazine, en attendant que Madame de Lauzin veuille bien venir et enjamber les supporters du PSG qui espèrent encore gagner ce soir, les pauvres. Michel Houellebecq, Romaric Sangars, vous aimez Michel Houellebecq depuis très longtemps, vous avez lu ses livres, vous avez lu ses poésies, vous avez écouté son premier album, parce que, chers auditeurs, Michel Houellebecq avait déjà publié un album de musique en 2000.
En 2000, et j'ai même assisté à son concert à l'époque en 2000. Je fais partie de ceux qui l'ont vu en 2000. Et j'étais arrivé à Paris depuis peu de temps et j'étais déjà un lecteur de Michel Houellebecq, tout à fait bouleversé par l'originalité, la causticité de l'auteur des Particules élémentaires. Et j'avais été impressionné par ce qu'il avait fait à l'époque avec Bertrand Burgala. Donc, ce n'était pas du tout le même collaborateur, même si Bertrand Burgala, comme Frédéric Lau, est un vieux routier de la musique française. Il a collaboré avec énormément de monde, notamment avec le groupe industriel slovène Laibar, mais tout autant avec Philippe Catherine à une époque. Il a un label, Tricatel, qui a produit énormément de choses, qui produit encore beaucoup de choses aujourd'hui, comme le groupe Catastrophe, par exemple, qui est produit par Burgala. Donc tout ça pour dire qu'en 2000, c'était avec Burgala que Houellebecq avait sorti un album après avoir fait une tournée des plages, donc ce qui était quand même très original. C'est-à-dire que durant l'été, Michel Houellebecq était allé chanter sur les plages ses textes sur la fin de l'homme occidental, sur sa déprime, sur son néant fondamental, devant les vacanciers se faisant bronzer au soleil et ne se doutant pas encore que le 11 septembre 2001, cette fin de l'histoire qui était une espèce d'agonie blanche de l'homme occidental allait s'interrompre brusquement, et quelque part Houellebecq le préparait à sortir de cette torpeur, ou du moins mettait en valeur cette torpeur. Peur avec c'est la manière qui était à lui. Et donc en 2000, en effet, il avait sorti ce disque Présence humaine, qui était tout à fait remarquable, mais avec une atmosphère plutôt psychédélique, qui était celle de... Il y avait un côté musique d'ascenseur haut de gamme, hein, mais il y avait un côté un peu comme ça chez Burgala, une musique ironique, une musique très efficace, un peu dansante, d'ailleurs par moments, un peu 70s, qui contrastait du coup avec le ton de Michel Houellebecq, qui était un ton évidemment beaucoup plus neurasthénique, beaucoup plus froid. Donc c'était le contraste de cette rencontre de deux univers un peu qui fabriquait le cocktail efficace et explosif de présence humaine. Puis cette collaboration s'était arrêtée là, enfin c'était un disque unique. Alors, avec quelques concerts.
Mais à quoi ressemble un seul en scène de Michel Houellebecq? Parce qu'on peut l'écouter effectivement sur Internet, mais alors, puisque tu l'as vu
il y a 26 ans, du coup, Houellebecq est arrivé, comme on l'imagine, c'est-à-dire très statique. Il se posait derrière son micro, très droit, et puis il récitait ses textes. Il n'est pas très agité, enfin, je veux dire, évidemment, il n'a pas une présence physique pas spécialement remarquable, mais... En fait, quelque part, Houellebecq, il est dans cette ironie, c'est-à-dire qu'il est celui qui reste... c'est le faux mou, c'est le faux dormant, c'est le faux, c'est le faux faible, en fait, un peu en permanence, qui arrive comme ça, et tout le monde s'agite, et lui, il reste calme, et puis son décalage, finalement, va créer quelque chose de spectaculaire. Donc, c'est plutôt une... C'est dans les pleins et les déliés, c'est plutôt un délié au niveau esthétique, mais ça fonctionne très bien. Et du coup, non, j'ai un très bon souvenir de son spectacle. Après, il y avait derrière le groupe AS Dragon, je crois, qui était le groupe de Burgala, qui est très efficace, très présent sur scène. Ça faisait un vrai groupe de rock quand même derrière, hein, Houellebecq, donc il y avait quand même ce contraste, encore une fois. Alors que ce nouvel album avec Frédéric Lau, c'est pas du tout la même formule, même si on retrouve quelque chose... ceux qui ont aimé Présence Humaine, je pense, aimeront...
Souvenez-vous de l'homme.
Souvenez-vous de l'homme, pardon.
Qui est le titre de l'album, tiré de ces derniers poèmes qui ont été publiés chez Flammarion il y a quelques jours, qui s'appelle « Combat toujours perdant ».
Voilà, « Combat toujours perdant », titre... peu optimiste, qui en soi pourrait ne pas surprendre, mais il faut savoir que Le sens du combat était le premier recueil de poèmes publié par Houellebecq il y a au moins 30 ans de cela. Donc si même Houellebecq a perdu le sens du combat, ou du moins il n'a pas perdu, mais qu'il considère qu'il est automatiquement perdant, évidemment, on sent qu'on est vraiment dans un Houellebecq terminal. Ça, c'est pour le ton de ses textes, qui est peut-être beaucoup plus apocalyptique et eschatologique que les poèmes qui étaient mis en musique à l'époque de Burgala. Frédéric Lau fait un accompagnement beaucoup plus cohérent, enfin du moins qui joue pas sur le contraste, qui soutient avec une musique assez épurée, très mélancolique, extrêmement belle, envoûtante, sur laquelle se pose et s'harmonise parfaitement la voix de Houellebecq. On a donc un ensemble qui est beaucoup plus cohérent dans sa noirceur et sa mélancolie. Mais en même temps, il y a ce miracle. D'abord, c'est beau, et la beauté a quelque chose de léger et qui élève, et qui fait que, aussi durs soient les textes, on est dans quelque chose qui soulève néanmoins l'auditeur. Et ensuite... on a quelque chose de doux, comme Arthur, tu le remarquais, sur ce disque. On a quelque chose d'extrêmement suave et de réconcilié, en fait. Voilà. C'est ça qui est assez étonnant. C'est qu'il y a quelque chose d'accommodant. C'est comme une berceuse à l'oreille du dernier homme, quoi. Il y a un peu comme ça, avec beaucoup de compassion, de miséricorde. C'est comme une fois que le combat est décrété perdant, une fois que la fin du monde est attestée, eh bien finalement, il n'y a plus qu'à se souvenir de l'homme. Alors, Michel Houellebecq est passé le week-end dernier à l'émission de Léa Salamé, expliquer...
Dans quelle époque sur France Télévisions ?
Dans quelle époque, voilà, que, évidemment, son recueil de poèmes est entièrement vu dans un futur proche, ce qui rappellera aux lecteurs de Houellebecq, d'ailleurs, Les Particules élémentaires, puisque son premier grand succès, Les Particules élémentaires, raconte la fin de l'humanité. D'une certaine manière, c'est un clone du personnage principal qui raconte comment l'humanité... a fini par en avoir assez d'elle-même et est entrée dans une nouvelle ère réconciliée par le clonage, avec une espèce de résorption des problèmes humains par le remplacement de l'humain tout court. Et il expliquait d'ailleurs ce dimanche qu'il avait été très marqué par cette hypothèse science-fictionnelle quand il l'avait lue, peut-être adolescent, d'une idée d'une humanité future qui ne se souviendrait plus, ou d'une post-humanité, enfin en tout cas d'autres types d'habitants de la planète, qui ne se souviendraient de l'humanité que comme une hypothèse incertaine. Et que, en fait, c'est cette esthétique qui est très belle, qui l'a beaucoup touché, qui a inspiré évidemment la perspective des particules élémentaires, qui inspire complètement ce disque, qui imagine finalement, dans un futur proche, une humanité terminale ou une humanité en train d'agoniser, ou une humanité post-humaine qui se souviendrait difficilement de ce qu'a pu être la vie sur Terre à l'époque où l'humain vivait. Et pour amener les choses à moi et à mes thèses, je dirais qu'on est là absolument dans une forme de nostalgie du futur, terme que j'avais employé à plusieurs reprises, et qui me semble typiquement contemporain, c'est-à-dire que les romantiques avaient la nostalgie des ruines, avaient la nostalgie d'un passé, les futuristes avaient une hubris du futur, et nous sommes passés à partir des années 80-90 dans une émotion d'époque, un zeitgeist, comme disent les Allemands, qui est celle d'une nostalgie du futur, c'est-à-dire que nous avons la nostalgie du futur tel que nous pouvions le fantasmer à l'époque où il était encore, souriant, il apporte encore quelque chose, alors qu'on a aujourd'hui une vision du futur uniquement sombre. Alors Houellebecq n'est pas vraiment dans cette nostalgie du futur, mais il est dans le même type d'ambiguïté, de sentiment, c'est-à-dire de nostalgie de l'humanité maintenant qu'elle a disparu. Ce qui est une autre manière d'être dans ces sentiments ambigus qui me paraissent typiques de notre époque et dont Houellebecq est évidemment un représentant éminent, extraordinaire, puisqu'il est à la fois le grand témoin de l'époque et le grand représentant et le grand formulateur, si on peut dire, de ces émotions, de ces sensations d'époque. Voilà, ce dont nous parlons, notamment dans l'incorrect.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a jamais paru aussi serein.
C'est vrai.
Une sérénité étrange, mais voilà, il faut que la mort vienne, la mort douce et profonde. Bientôt, les êtres humains s'enfuiront hors du monde, nous chuchote-t-il. Une belle chanson de soins palliatifs. Hélène de Lozin nous a rejoint. Bonjour,
enfin,
Hélène.
Me voilà.
Bonjour, Hélène. Voilà. Bah, quelle idée de prendre une voiture un soir de match.
Non, mais effectivement, mais je suis tellement déconnectée que je n'avais absolument pas soupçonné l'existence d'un match ce soir. Autrement, effectivement, je me serais arrangée autrement.
Mais c'est pas grave. On est ravis de vous recevoir. Alors, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est toujours un plaisir.
Alors, vous êtes ancienne élève de l'ENS, comme quoi on peut faire l'ENS arrive à la bourre, agrégée et docteur en histoire, et vous êtes la correspondante à Paris de la très belle revue, je le dis en français, Européenne Conservative. Et vous venez de publier, il y a quelques mois, chez Talendier, Strauss, l'empereur de la valse. Donc un essai passionnant, presque romanesque, qui embarque donc le lecteur dans la vie de cette machine à tube. À cette époque où la musique européenne illuminait encore le monde et on n'avait pas besoin d'Ayana Nakamura et je ne sais pas qui pour faire des ventes et que les gens nous écoutent. Bref, et qui vit donc Vienne et Paris s'affronter pour savoir qui allait devenir ou qui allait obtenir le titre de la capitale européenne. Bref, vous l'avez compris, vous l'aurez compris, chers auditeurs. Si vous voulez tout savoir sur le papa du Bonadume bleu et vivre à une époque où les monnaies n'existaient pas et l'Amérique n'avait pas encore oublié qu'elle nous devait un paquet d'oseille, eh bien vous courez dans les bonnes librairies, vous le procurez. Mais vous le savez, chers auditeurs, Radio Courtoisie est attachée aux traditions et nous en avons une, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Hélène de Lozin, avec quel personnage historique auriez-vous aimé valser ?
Alors ça, c'est pas évident, parce qu'un bon valseur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est naturellement élégant, qui a le sens du rythme. Alors ça, historiquement, c'est plutôt compliqué à déterminer, mais qui va avoir un minimum de puissance pour que la valse, en tant que cavalière, évidemment, soit agréable. Donc j'aurais tendance à avoir envie de danser avec Joseph Strauss, paradoxalement, plutôt qu'avec Johann, son grand frère. Donc le petit frère, enfin le frère du milieu, puisqu'ils sont trois, en fait, parce qu'il était doté d'une grande de sensibilité, nous dit-on, et il faisait un petit peu moins le fanfaron, et était un peu moins justement une tête d'affiche insupportable que son grand frère. Maintenant, on dit aussi que c'était un grand timide, donc est-ce qu'il avait toute l'énergie qu'il faut pour danser sur la piste ? Ça, je n'en sais rien.
Bach ou Mozart ?
Ah, Mozart, sans hésiter.
Le livre que vous n'avouerez jamais ne pas avoir lu.
Bah, je ne vais pas l'avouer, bah, sinon si. Ça serait la honte absolue. Je vais vous l'avouer quand même. Les Misérables. Alors ça,
oh,
c'est
la
à la vache quand même. Hein. Vous vous rendez compte ce que j'ose sortir sur votre antenne. C'est typiquement le genre de livre dans le cas duquel on souffre du syndrome du cagneux. C'est-à-dire que vous êtes absolument capable d'en parler du début jusqu'à la fin en ayant fait une bonne sélection des extraits qui vont bien, sur lesquels vous êtes capable de disserter pendant 6 heures montre en main. Je ne l'ai jamais lu en entier. Alors, est-ce que je ne l'ai jamais lu en entier, ça compte ? Mais oui, effectivement, j'avoue ce forfait.
Opéra ou café viennois ?
Ah, café viennois, bien sûr.
S'il ne devait rester qu'un seul philosophe ?
S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Je vais aller dire saint Thomas d'Aquin. Comme ça, on fait une pierre deux coups. On a à la fois toute la foi catholique et toute la philosophie. Alors, je vais vous faire une autre révélation. Je n'ai pas lu la Somme théologique en entier.
Bon, commencez par la Somme et après les Misérables.
Ouais, on est d'accord. Hein, la vie est une question de priorité.
Strudel ou Paris-Brest?
Strudel.
Non, ah ouais, mais... pas grand-chose de français chez vous.
Ouais, non, mais c'est terrible. Hein.
Von der Leyen en trois mots.
Tête à claque, ça fait trois mots ça.
Oui, un personnage historique que vous auriez aimé interviewer, donc quelqu'un a priori qui est mort.
Marie-Thérèse, sans l'ombre d'une hésitation. Alors Marie-Thérèse, la grande Marie-Thérèse, donc la rivale de Frédéric II, la contemporaine de la grande Catherine. Moi j'ai une admiration absolument sans bonne pour ce personnage qui a quand même réussi le tour de force de diriger un empire de plusieurs millions d'habitants en étant une femme, en ayant la modique somme de 16 enfants. Donc c'est quand même pas mal.
Ça fait quelques remplaçants pour une équipe de foot.
Ouais, dont 13 sont arrivés à l'âge adulte, ce qui est quand même aussi une performance assez exceptionnelle pour l'époque. Et moi j'aime bien les gens qui me disent « Ouais, mais de toute façon à l'époque, elle devait avoir toute une batterie de nounous, gouvernantes, servants, valets, etc. » Oui, mais enfin elle a été quand même 16 fois enceinte. Ça se délègue pas jusqu'à ce qu'on mette en point l'utérus artificiel. Et elle a accouché 16 fois aussi. Et elle a réformé son pays de manière exceptionnelle. Elle a tenu tête à ce sinistre personnage qui est Frédéric II de Prusse. Donc voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et si j'avais la chance de la rencontrer, je pense que je serais la plus heureuse.
Quelle est la capitale européenne où l'on complote ou non comploté le mieux?
Alors pour bien comploter, il faut du temps. Il faut un certain goût pour le farniente, parce qu'on se doute bien que le complot ne va peut-être pas aboutir tout de suite. Il faut un cadre qui se prête à la rêverie, il faut un sens de l'histoire et du tragique. Il faut avoir le goût, évidemment, de l'intrigue. Donc je pense que Rome est un endroit où on doit comploter assez bien.
S'il fallait changer l'hymne de l'Union européenne, vous prendriez quoi ?
Je ne suis pas une fanatique de Beethoven, mais bon, dans son genre, l'hymne à la joie remplit assez bien son office. Mais je préférerais, évidemment, tropisme autrichien oblige, je préférerais la marche de Radetzky.
Et dernière question, quel est selon vous l'auteur le plus cité, mais le moins lu ?
Oscar Wilde. Oscar Wilde, pour moi, c'est tout à fait l'auteur de citations de papillotes. C'est-à-dire que tout le monde en a toujours une sous le coude. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ou j'ai les meilleurs goûts, je me contente du meilleur. Enfin bref, il est assez fort pour ce genre de petits aphorismes qu'on aime bien se partager et pour se donner une coloration littéraire. Mais honnêtement, je prends la minette moyenne qui cite Oscar Wilde n'a probablement jamais lu Oscar Wilde de sa vie. Et elle n'est pas la seule.
Merci Hélène Delauzin. Passons à votre livre. Alors, je le remontre. Johann Strauss. Hop, l'empereur de la valse, évidemment, c'est chez Talandier. Alors, d'où vient votre passion pour Vienne et pour Johann Strauss?
Alors, effectivement, c'est toujours quelque chose qui impressionne les gens. Ils me disent, mais alors, je sais pas, vous avez un ancêtre autrichien, vous avez vécu là-bas. Non, rien de tout ça. Je suis issue d'une famille stéphanoise, matinée de sang bourguignon. Donc, l'Autriche est très, très loin de tout ça. Par contre, j'ai quand même des parents qui m'ont fait voyager dans toute l'Europe très jeune. Et j'ai eu la chance de tomber dans la marmite de l'Autriche très jeune, parce que j'avais 4 ans et demi la première fois. Que j'ai mis les pieds là-bas. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu pompeux et un peu prétentieux d'affirmer qu'à 4 ans et demi, j'ai été saisie par la cohérence de la Mittel Europa et par sa richesse culturelle, mais j'ose néanmoins, il y a quand même de ça. Donc j'y suis allée très jeune, très tôt, et donc j'y suis retournée un certain nombre de fois parce qu'on voyageait beaucoup avec mes parents étant enfants. Au collège, j'ai fait de l'allemand. Et là, j'ai découvert la douloureuse réalité que l'enseignement de l'allemand en France se limitait à die Umweltverschmutzung, c'est-à-dire la pollution, ou bien alors le néonazisme, ce qui était quand même passablement ennuyeux. Et j'ai reconnecté l'apprentissage de cette langue avec tous mes beaux souvenirs d'enfance, et je me suis dit, il manque quelque chose dans tout ça. Et qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, c'est l'Autriche, parce qu'effectivement, quand on apprend l'allemand en France, on oublie soigneusement que, une grande partie de l'histoire du monde germanique, c'est l'Autriche qui l'a écrite et pas l'Allemagne. Je faisais de la musique, j'ai fait du piano à peu près depuis l'âge auquel j'ai commencé à visiter l'Autriche. Donc forcément, quand vous faites de la musique, vous n'échappez pas à l'Autriche. On parlait de Mozart tout à l'heure, il y a Beethoven, il y a Schubert, il y a Strauss évidemment, Haydn, je pourrais en citer beaucoup. Donc quand on aime la musique classique, ce qui est mon cas, eh bien, on rencontre l'Autriche à chaque pas. Donc tout cela a fait que j'ai développé assez tôt un amour pour cette Autriche. Et quand il s'est agi d'organiser des voyages linguistiques, je n'étais absolument pas passionnée par la banlieue industrielle de Stuttgart. Et donc j'ai magouillé avec une association locale pour pouvoir me faire envoyer en Autriche pour pratiquer l'allemand. Et là, j'ai eu la chance immense de tomber dans une famille absolument délicieuse qui habitait Baden-Baden, donc qui est une jolie station thermale à quelques kilomètres de Vienne et qui est aussi la capitale de l'opérette. Et alors j'ai passé un mois là-bas au milieu des vignobles parce qu'un des grands attraits de l'Autriche, savez-vous, c'est pas qu'on y boit de la bière, mais c'est qu'on y boit du vin. Et donc tous les soirs, j'étais dans des tavernes à boire de bons petits vins blancs ou à aller écouter des opérettes et je me suis dit que décidément, l'Autriche était quand même d'un agrément mille fois supérieur à l'Allemagne. Donc après, quand je suis, s'est posé la question de mes études universitaires, donc j'ai choisi, j'étais à la Sorbonne à Paris 4, j'ai choisi différents cours avec des professeurs tous aussi estimables les uns que les autres sur la monarchie danubienne, donc le professeur Schalin, où on travaillait sur la monarchie d'Europe centrale à l'école moderne avec des intrigues passablement tordues et passionnantes comme l'assassinat de Wallenstein pendant la guerre de 30 ans, les querelles entre les Hussites et les catholiques, la défenestration de Prague qui est quand même un épisode absolument mythique, bref tout cet univers d'Europe centrale extrêmement tourmentée qui m'a passionnée. Et je suivais aussi les cours du professeur Jean-Paul Bled sur l'Autriche et l'Allemagne au 19e. Donc après, quand il s'est agi de me spécialiser, eh bien, j'ai continué dans cette voie-là et donc j'ai fait ma thèse en histoire de l'Autriche. Et évidemment, comme en parallèle, je continuais la musique, eh bien, tout cela s'est réuni dans un bouquet, dans un feu d'artifice culturel et musical qui continue de m'enchanter encore et qui m'a mené justement à cette biographie de Strauss.
Rémi Carlu.
Oui, bien, rentrons dans le vif du sujet avec ce livre qui, effectivement, est presque comme un roman, puisque Strauss a quand même une vie extraordinaire. Et il se trouve qu'avant Johann Strauss, il y a Johann Strauss, puisque son père porte le même nom et lui aussi une figure très importante de la scène musicale viennoise. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce rapport du père à l'enfant et de l'enfant au père, puisqu'il y a c'est assez fascinant d'ailleurs dans votre ouvrage, il y a une forme de rivalité un petit peu mimétique entre les deux. Un père qui ne veut pas que son enfant fasse de la musique, l'enfant qui veut absolument suivre la voie du père. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur
oui,
ce
rapport ? Oui, effectivement, c'est une des parties les plus attachantes et les plus passionnantes de l'histoire des Strauss, c'est qu'il s'agit vraiment d'une dynastie familiale et qu'il y a au cœur du processus créatif de Johann Strauss, le fils, et bien effectivement la rivalité avec le père. Alors, je sais bien que Vienne est la ville de la psychanalyse, mais il ne faut pas être tenté de faire de la psychanalyse de bas étage, mais quand même, dans ce cas précis, c'est très tentant. Il y a effectivement une question de rivalité, d'affect. Donc, effectivement, le premier musicien de la famille, c'est le père, qui s'appelle Johann Strauss lui aussi. Il sait ce que c'est que la vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est compliqué, on se couche tard, on gagne mal sa vie. Et donc, il ne veut pas de ça pour ses fils, ce qui est un réflexe finalement assez honorable. Seulement, il a transmis le virus de la musique à ses enfants. Et ses enfants, eh bien, puisqu'il a trois fils, Johann, Joseph, dont on a parlé tout à l'heure, et Édouard, ils se forment, ils apprennent la musique, parce que de toute façon, à Vienne, on n'a pas le choix, on n'échappe pas à la musique. Et donc, ils se forment à la musique et ils vont se mettre en rivalité avec le père parce que effectivement la passion de la musique les dévore. Et puis il y a un élément familial qui vient cristalliser tout cela, c'est que eh bien le père va déserter le domicile conjugal. Il va tromper allègrement sa femme, la mère du petit Johann. Il va s'installer avec une modiste à qui il va faire 7 enfants, rien que ça quand même. Et donc effectivement Johann, qui est le fils aîné, se retrouve dans cette situation où il doit littéralement, psychanalytiquement, en quelque sorte, remplacer le père. Le père a déserté le domicile conjugal. Donc maintenant, le chef de famille, c'est lui. Et comment est-ce qu'il va alimenter et faire vivre cette famille en l'absence du père ? Eh bien, par la musique. Et il doit être meilleur que le père. Il doit remplacer le père dans toutes ses dimensions, ou presque. Donc effectivement, cette rivalité père-fils, qui est un grand classique, hein, chez nous, on connaît Alexandre Dumas père et Alexandre Dumas fils, et bien là, c'est version musicale. Cette rivalité, c'est un des moteurs, effectivement, de l'énergie, de l'acharnement et de la vitalité que va mettre Johann Strauss dans sa carrière artistique.
Et il démarre tôt, comme tous les enfants de musiciens, mais il éclot à quel âge ?
Alors, ça dépend. On dit qu'il a composé sa première valse autour de 6 ans et que sa mère a religieusement gardé les premières mesures composées par ce jeune prodige. Alors après, il n'est pas aussi précoce que Mozart, qui composait son premier opéra à l'âge de 11 ans. Mais bon, il a commencé très tôt, il pratiquait très tôt. Le violon, le piano également. Mais ce qui le lance véritablement, le moment où il lance sa carrière musicale, c'est 1844, donc à l'âge de 19 ans. Pas tout à fait 19 ans d'ailleurs, puisqu'il lance sa carrière le 15 octobre, il est né le 25. Et à ce moment-là, c'est quand même très précoce, 19 ans, il entre sur la scène et il donne son premier concert public. Donc effectivement, c'est un profil qui est jeune.
Un profil très jeune. Alors on va continuer à se replonger dans ce fin 19e, début 20e, dans les valses et dans Vienne, mais vous savez qu'il est 17h59, donc le temps d'un petit message et on se retrouve tout de suite.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, tous les jours de 17h30 à 19h30. Nous sommes avec Hélène Delauzin pour parler de Strauss et de Vienne, mais vous savez qu'à 18h, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu, qui va nous parler de l'art de la guerre.
Quelques mois après une intervention spectaculaire au Venezuela, les États-Unis ont lancé une attaque historique, vous l'avez vu, contre l'Iran, sans que l'on sache d'ailleurs s'ils s'en tiendront au combat aérien ou s'ils enverront des troupes au sol, sans que l'on sache non plus si c'est la mise en pièces de l'armée, si c'est la destruction du programme nucléaire qu'ils disaient avoir détruit il y a 6 mois, si c'est le renversement du régime des Mollahs qui est visé. Déjà engagés en Palestine, les Israéliens se sont greffés à cette offensive pour anéantir leurs ennemis existentiels, en réponse de quoi l'Iran arrose ses voisins de missiles dans l'espoir d'embraser la région. Pendant ce temps, et depuis 4 ans déjà, Ukrainiens et Russes se livrent une guerre fratricide dont on ne voit pas le terme. Craignant que le feu se répande, tous les pays européens sont en train de se réarmer. Bref, et le haut dignitaire de l'armée française nous prévient depuis quelques années, les conflits de haute intensité sont de retour. Nous avons vécu dans les années 2000-2010 une phase d'accalmie, de décantation, de digestion de la chute du mur de Berlin d'abord, puis de la fin de l'impérium occidental avec la débâcle en Irak. De bipolaire, le monde devenait multipolaire et chacun prenait un temps pour refaire ses forces et redéfinir ses positions. Nous entrons maintenant dans la phase de cristallisation d'une ère nouvelle qui va décider du visage de l'ordre mondial pour le siècle prochain. De dilaté, le temps se concentre et s'accélère, l'engrenage des événements tourne à plein et l'ordre des choses bascule peu à peu.
Ce sont donc les guerres actuelles qui accoucheront du nouvel ordre mondial ?
Effectivement, vous l'aurez remarqué depuis 5 ans, le gros de l'actualité est essentiellement géopolitique. Et géopolitique dans sa dimension essentiellement militaire. Le problème, c'est qu'on a tendance à croire que la guerre est le terrain de l'objectivité par essence. Si un conflit politique opposant deux camps ne peut être tranché par le jeu d'influence, l'intimidation, la persuasion, l'intrigue, alors il faudrait recourir aux armes qui, malgré leur brutalité, et bien qu'elles puissent faire triompher les méchants, ont l'immense avantage de pouvoir déterminer un vainqueur et donc de trancher les différends. On se figure le champ de bataille comme un ring où s'affronteraient deux combattants jusqu'au chaos de l'un par l'autre. Et c'est le plus fort qui gagnerait, et le plus fort est réputé être celui qui est le mieux armé, voyez comme Trump semble sûr de son fait. Telles sont donc nos idées reçues sur la guerre. 1. Elle détermine un vainqueur. 2. Elle le désigne de manière rationnelle et immédiate. 3. Elle le couronne pour des raisons essentiellement matérielles. Pourtant, l'histoire montre que les choses sont loin d'être si claires. On ne terrasse pas une armée entière à la guerre comme un combattant à la boxe. On peut perdre plus de soldats que son adversaire, et pourtant gagner. Donc les mathématiques ne nous disent rien. La supériorité matérielle, de nombreux conflits l'ont montré, ne suffit pas. Certaines victoires tardent à se dessiner et d'autres peuvent demain se retourner en défaite. Bref, l'issue d'une guerre est moins maîtrisable qu'on le croit.
Mais alors, qu'est-ce qu'une guerre gagnée ou une guerre perdue ?
Bien, cette question d'apparence simple est en fait extrêmement complexe. Qu'on y réfléchisse un instant, qu'est-ce qui permet de déterminer le vainqueur d'une guerre ou d'une bataille ? Joseph de Maistre l'explique au 7e entretien des soirées de Saint-Pétersbourg, une bataille perdue, c'est une bataille qu'on croit avoir perdue.
Il trouve toujours un Joseph de Maistre quelque part. C'est merveilleux.
Oui, il y a toujours des bons moyens de faire.
C'est la première fois que je le cite dans ses chroniques, cher Arthur. Je me suis restreint. Alors non, Joseph de Maistre ne prétend pas revisiter l'art de la guerre en recourant à la méthode Coué. Mais il nous dit plutôt que c'est l'opinion qui gagne et perd les batailles. Opinion des militaires au combat, bien sûr. Opinion publique à l'arrière aussi. Pourquoi l'opinion ? Parce qu'une bataille se perd ou se gagne à ce moment décisif où le soldat, étreint par la peur, n'avance plus. La contenance de son adversaire lui fait croire qu'il est perdu, et voilà qu'il recule. Une bataille se perd ou se gagne aussi, à ce moment décisif où l'arrière considère que la guerre, trop lourde en sacrifice, ne mérite plus d'être menée et réclame la fin des hostilités. Comprenez, ça n'est jamais un état des lieux précis et exhaustif qui fait tourner l'opinion du soldat ou de l'arrière. Le soldat n'a pas le temps de compter les morts sur le champ de bataille et l'arrière ne sait rien du déroulé opérationnel. Non, c'est la foi dans la victoire qui compte. C'est une mixture psychologique très complexe et tout à fait mystérieuse, mêlant la foi, la détermination, la rumeur, l'imagination, qui enhardit le soldat et l'arrière, ou les pères si elle fait défaut. En clair, la guerre ne dépend pas directement des forces matérielles de l'homme, et c'est pourquoi Mestre dira qu'elle est un département privilégié de la Providence et qu'il faut avant tout prier pour ne pas défaillir. Car le premier camp qui arrête d'avancer a perdu, c'est le vaincu qui désigne le vainqueur.
Vous voulez dire que tout se joue dans les têtes ?
Oui, dans la guerre en particulier, comme dans le jeu géopolitique de manière plus générale, le champ de bataille principal se situe dans les têtes, où deux forces morales antagonistes se livrent un affrontement herculéen. L'ordre matériel et technique des choses compte bien sûr, mais seulement en tant qu'il est le support de ce combat moral. Giuliano d'Empoli l'a bien montré dans son roman « Le mage du Kremlin ». Le personnage principal, Vadim Barazov, le double littéraire de Vladislav Surkov, qui fut l'éminence griffe de Vladimir Poutine, raconte la mise en place d'une opération de déstabilisation de l'Occident par le Kremlin. Le principe est le suivant, les tentatives de manipulation doivent être simples et facilement détectables par les autorités occidentales, le Kremlin n'ayant ensuite qu'à publier un démenti peu convaincant. L'idée est claire, non pas réussir à manipuler effectivement, mais réussir à faire croire que l'on a souhaité manipuler. L'objectif, c'est que vos ennemis dénoncent ces manipulations le plus bruyamment possible, ceci afin qu'ils se fassent les porte-parole de votre propre puissance. Baranov explique, nos premiers propagandistes deviendront ceux qui nous accuseront de comploter contre la démocratie, ce sont eux qui vont construire le mythe de notre puissance. C'est la grande leçon du roman, le pouvoir repose sur une base mythologique et rationnelle, sur ce qu'il fait croire qu'il est, plus que pour ce qu'il est effectivement, ceci parce qu'il doit mener la guerre des opinions. Baranov conclut, tout ce qui fait croire à la force l'augmente véritablement.
Et donc de ce point de vue, comment jugez-vous l'action de la France ?
Moi, je ne voudrais pas être trop cruel, cher Arthur, mais Emmanuel Macron est hélas à la remorque. Il a voulu, dès le premier jour de son mandat, habiter l'habit présidentiel, mais tout le monde a vite compris que ça n'était qu'un déguisement. Il s'est cru monarque républicain, mais on ne voit que la perruque et le maquillage. Son pouvoir, quoique bien réel, ne produit aucune impression de pouvoir, ni à l'intérieur, puisque son peuple ne le juge plus légitime, ni à l'extérieur, où il est au mieux ignoré, au pire moqué. Sur un échiquier mondial où les pièces sont mues par les forces morales, la France actuelle, et avec elle toute l'Union européenne, avec sa bureaucratie positiviste, son nihilisme civilisationnel et son progressisme décadent, sont des pouvoirs vides. J'en tiens pour preuve leur déclaration superfétatoire, jamais suivie d'effet. Si demain une guerre éclate, à l'intérieur ou à l'extérieur, au nom de quoi nous batterions-nous au juste ? Comment pourrions-nous avancer plus que des ennemis prêts à tout quand on ne croit plus en rien ? Qu'est-ce qui soutiendra l'opinion ici et fera flancher l'opinion là-bas ? La guerre est imminente, disent-ils ? Soit. Mais plus que des chars ou des avions, ce sont des raisons de se battre que les Européens doivent se donner s'ils ne veulent pas disparaître.
Merci Rémi Carlu. Des raisons, puis peut-être un peu de culture aussi, autant dire que ça joue. Et c'est pourquoi nous recevons également Hélène de Lauzin. Je rappelle son livre, Johann Strauss, L'Empereur de la Valse, parce que, revenons donc à votre livre, il y a deux personnages, il y a Strauss, mais il y a Vienne aussi. Et
absolument.
Alors Vienne, alors on se dit Vienne autour de 1900, ça donne un peu le vertige. Hein. Parce que Freud, Klimt, Schoenberg, Zweig, Strauss évidemment, comment expliquer qu'une seule ville concentre autant de talents, autant de cultures, et des cultures qui illuminent autant de pays ensuite ?
C'est le génie de la monarchie habsbourgeoise. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Vienne 1900, c'est... Alors, Johann Strauss, lui, meurt juste avant.
Juste avant, mais disons
1899, mais il y a son frère qui continue, Édouard. Ce que je trouve extraordinaire dans cette Vienne 1900, pour moi, c'est que c'est une modernité qui a réussi. C'est-à-dire que nous, depuis la Révolution française, on nous explique que le progrès doit passer par la destruction, par la révolution, voire la révolution permanente, qu'il faut mettre à bas l'ordre ancien pour faire... surgir un ordre nouveau et finalement Vienne nous apporte, cette Vienne de 1900 nous apporte exactement le contre-pied de ce credo révolutionnaire français, c'est-à-dire qu'on peut être dans une monarchie multiséculaire héritière d'un empire presque millénaire et à côté de cela porter en son sein des génies d'une nouvelle forme de modernité comme Freud, comme Klimt, comme tout ce mouvement le mouvement sécession, l'équivalent de notre Art Nouveau, qui ne se conçoit pas d'abord comme un mouvement révolutionnaire destructeur. Et c'est cela que je trouve extraordinaire. Et il faut souligner aussi... le rôle de, justement de la monarchie dans cette alchimie heureuse de la modernité viennoise. Je prends par exemple le mouvement sécession. Il y a des parallèles avec ce que nous avons connu, nous, sous le Second Empire, avec le Salon des Refusés qui a permis aux impressionnistes de se faire connaître alors même qu'ils brisaient les codes de l'académisme. Eh bien, on a quelque chose de comparativement similaire avec le mouvement sécession. C'est un mouvement qui brise les codes, qui s'écarte de l'académisme, mais ça ne l'empêche pas d'être reconnu par le pouvoir. Otto Wagner, donc le grand architecte viennois, celui auquel on doit les très belles, c'est un peu le Hector Guimard viennois, auquel on doit les très belles stations de métro dans ce style Art Nouveau, eh bien il se voit confier des programmes officiels, par exemple la Caisse d'épargne de la Poste, une très belle église Saint-Léopold qui domine les hauteurs de Vienne, et le pouvoir a bien conscience, parce qu'effectivement on est sur une monarchie catholique que certains qualifieraient de réactionnaire, etc. Mais le pouvoir a bien conscience qu'il y a quelque chose de positif et de créatif là-dedans, et cette modernité, voilà, elle est clos dans ce régime que on aime bien, quand on lit en particulier la presse de la Troisième République, qualifiée de second homme malade de l'Europe, d'espèce de création vermoulue qui n'attend qu'une pichenette pour s'effondrer, etc. Et c'est cela qui est extraordinaire dans ce modèle de la Vienne 20e. C'est que on a un parfait mélange de tradition et de modernité et une créativité extraordinaire.
Rémi Carlu.
Alors, Vienne, capitale culturelle, mais il y a une autre capitale culturelle en Europe, c'est Paris, évidemment.
Ah bon?
quel regard les Autrichiens, les Viennois à l'époque lancent-ils sur Paris? Parce qu'il y a encore une fois, on a parlé de la rivalité entre le père Strauss et le fils Strauss. Il y a une autre forme de rivalité, c'est entre ces deux.
Il y a une rivalité, mais une rivalité, rivalité amoureuse, un mélange d'attraction-répulsion. Là aussi, on peut ressortir les catégories psy dans cette relation. Il y a une émulation entre les deux capitales. Et c'est cela qui fait toute la richesse de cette culture européenne d'avant 14. C'est que Vienne est incontestablement la capitale de la musique. Quand vous êtes un musicien, vous devez passer par Vienne. Beethoven est né à Bonn, il vient à Vienne. Chopin fait un passage à Vienne. Liszt qui arrive de sa Hongrie, alors évidemment c'est la même entité géopolitique, mais c'est pareil, il doit passer par Vienne. Donc il y a un rayonnement spécifique de Vienne, mais l'onction parisienne reste indispensable. Ouais. Et Strauss d'ailleurs, le père comme le fils vont aller chercher la légitimité également à Paris. Johann Strauss fait un voyage qui va justement lui permettre de faire décoller sa carrière, parce qu'il va être reçu à la cour de Louis-Philippe, qu'il va être porté au nu à ce moment-là lors de son voyage parisien, et donc la sanction parisienne est en quelque sorte une bénédiction et un imprimatur culturel pour toute l'Europe. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a ce dialogue culturel avec une personnalité propre de chacune de ces deux grandes villes qui incarne un modèle culturel et politique différent, qui se renvoie la balle et qui s'entraîne, se stimule. Je parle beaucoup dans mon livre de la rivalité entre Offenbach et Strauss. Donc Offenbach, c'est le maître à danser du Second Empire, c'est le champion de ce qu'on a appelé la fête impériale. Il domine la scène parisienne avec ses opérettes, mais il ne fait pas de valse. Donc il cultive la valse parce que Strauss, qui lui triomphe à Vienne, est le maître de la valse. Et inversement, Strauss se met à faire de l'opérette parce que à Paris, tout le monde fait de l'opérette. Et c'est ce va-et-vient extraordinaire qui construit cette richesse culturelle européenne.
Et alors, c'est plutôt à la fin de sa vie, effectivement, où Strauss se met à l'opérette et... Donc, il en fait évidemment à Vienne et il essaye de venir aussi triompher à Paris avec ses opérettes, parce qu'il faut venir contester Offenbach sur son terrain.
Exactement. Offenbach est venu faire des tournées à Vienne et Strauss ne peut pas concevoir que son succès musical ne soit pas justement accueilli à Paris. Ce qui pose d'ailleurs, c'est assez impressionnant, si on prend par exemple son opérette phare qui est la plus connue et la plus jouée, La Chauve-souris, Die Fledermaus. Donc à la base, c'est une pièce allemande. Le livret est retravaillé par Meyack et Halévy, donc les librettistes d'Offenbach. C'est adapté dans une opérette qui fait l'opérette viennoise de Strauss. Et puis après, elle est rejouée à Paris. Ça pose d'ailleurs des problèmes de droits d'auteur, parce que Meyack et Halévy ne sont pas contents que leur œuvre ait été remixée, si je puis dire, à Vienne. Donc, on en refait une nouvelle version et il faut adapter pour Paris. Mmh. Et puis ensuite, la version parisienne est rejouée à Vienne. Donc, on a un jeu de ping-pong absolument incroyable.
Romaric Sangars.
Oui, toujours sur cette rivalité parisienno-viennoise. Comment se fait-il que les musiciens russes vont à Paris plutôt qu'à Vienne, alors qu'ils seraient plus proches? Je pense au succès des ballets russes, bien sûr, au début du XXe siècle, à Stravinsky, à cette importance pour les musiciens russes de venir triompher à Paris. Pourquoi il passe pas par Vienne ou enfin est-ce qu'il y a une quel est le rapport de Vienne avec les Russes dans ce sens-là ?
Alors c'est un rapport assez complexe. Dans mon livre, j'insiste beaucoup sur tout un pan qui moi-même avant que je commence mes recherches était ne m'apparaissait pas aussi frappant. C'est l'aventure russe de Strauss. C'est-à-dire que Strauss, lui, pendant de nombreuses années, est allé jouer chaque année, tous les ans, en été, à Pavlovsk, donc résidence estivale autour de Saint-Pétersbourg, de membres de la famille impériale, ancienne résidence du tsar Paul Ier. Et il a eu une inspiration russe dans sa création qui est très importante. Il y a même certains titres de ces polkas, je pense en particulier, qui ont été créés spécialement pour le public russe et qui ont ensuite été réacclimatés au public viennois. C'est lui aussi, ce que je mentionne dans mon livre et qui est très peu connu, c'est le découvreur de Tchaïkovski. Ouais. C'est-à-dire que c'est le premier à avoir fait jouer en public une œuvre de Tchaïkovski alors que Tchaïkovski n'est encore qu'un jeune musicien. Donc ça, c'est dans le sens austro-russe. Alors dans le sens russe autrichien, c'est plus complexe. Donc il y a moins ce passage obligé par Vienne et plus facilement par Paris. Là, je pense qu'il y a un facteur quand même politique qui joue. La Russie et l'Autriche sont à couteau tiré pendant la période qui nous concerne. Et donc pour un Russe aller s'installer à Vienne ou passer par Vienne, c'est un geste qui ne serait pas forcément très bien interprété. Alors qu'évidemment, ça met du temps à se conclure, mais il y a l'alliance franco-russe qui donne un sens très particulier. Vous citiez tout à l'heure Stravinsky, mais avant l'épopée des ballets russes de Diaghilev, ça fait partie du plan de communication lié à l'alliance franco-russe. Hein. Donc là, le facteur politique joue à plein. Pour cette dimension politique, je le souligne aussi rapidement, la première fois que Strauss est approché par les Russes, il est en train de prendre les eaux en 1855, et il hésite à accepter le contrat qui lui propose d'aller jouer en Russie parce qu'on est on est dans la guerre de Crimée. Ça nous rappelle quelque chose. Hein. Ce n'est qu'un des multiples avatars de la guerre russo-ukrainienne dans sa déclinaison actuelle. Et donc la Russie et l'Autriche sont opposées au moment de la guerre de Crimée. Et donc Strauss y réfléchit à deux fois avant de signer justement ce contrat avec la Russie.
Alors qui dit Strauss dit valse, qui dit valse dit bal et qui dit bal dit Vienne. Comment les bals justement structuraient la vie viennoise et qu'est-ce qui se jouait dans ces bals ?
Alors le monde des bals à Vienne est quelque chose d'assez fascinant parce que c'est un phénomène d'une ampleur inouïe qui existe encore aujourd'hui pendant la saison du carnaval qui est le pic de la saison des bals. On compte jusqu'à 450 bals à Vienne, donc c'est absolument dingue. Tout le monde fait un bal, de la Banque d'Autriche en passant par l'université, la mairie, le lycée français, les LGBT, tout le monde fait de la valse. Bref, c'est quelque chose qui est ancien, mais qui n'est pas propre, si je puis dire, à Vienne, parce qu'à Paris aussi vous aviez énormément de bals, ils ont périclité alors qu'eux les ont gardés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, cet amour pour le bal englobe véritablement toute la société. C'est-à-dire que tout le monde danse du plus bas de l'échelle jusqu'au haut de la cour. Et on danse dans des lieux qui vont justement avoir une connotation sociologique différente. Bon, et les catégories populaires vont danser dans des bars, dans des cabarets, au faubourg. On parle même parfois des lumpenballs, donc les bals en haillon, et puis tout en haut de la pyramide, vous avez le bal de la cour et le bal à la cour, puisqu'il y a même une hiérarchie au sein même des bals de la cour. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une grille de lecture de la société viennoise. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que dans ces bals, on vient autant pour l'amour de la danse que pour l'amour de la musique, qui est vraiment la signature de l'Autriche. Parce que encore une fois, on danse à Paris aussi, mais la créativité musicale parisienne est particulièrement impressionnante. Et quelqu'un comme Strauss, pourquoi il fait son succès, justement ? Parce qu'il compose pour les bals, il joue pendant les bals et il dirige la musique pendant les bals. Donc, il faut vous imaginer que vous allez danser. C'est un peu l'effet de chanteur ou d'animateur de boîte de nuit. Quand vous allez à un bal, vous y allez parce que vous savez que vous allez entendre de la bonne musique et qu'en plus, cette bonne musique, elle va être interprétée par celui qui l'a composée et c'est lui qui dirige la formation musicale.
C'est David Guetta, quoi, en fait.
Voilà, oui.
Et il la dirige avec un violon.
Avec un violon.
Devant son orchestre et avec un violon.
Exactement. On n'utilise pas la baguette telle que nous la connaissons. C'est le premier violon, absolument. Mais, aujourd'hui, c'est André Rieu qui fonctionne comme ça et qui a remis au goût du jour, en fait, cette manière de diriger. Il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est le premier violon qui dirige la formation musicale. Absolument.
Et alors, comment qualifier le style musical de Strauss ? Quel est le style de ses valses par rapport à ses concurrents ?
Alors, il y a deux choses dans le style musical. Il y a le style de la composition et il y a le style de l'interprétation. Donc, le génie musical, c'est le sens de Strauss, c'est le sens de la mélodie. Il a une capacité à créer des mélodies qui restent en mémoire. Et ce génie, il l'a hérité du formateur de son père, Michael Pammer, qui est un peu l'ancêtre de la valse et qui avait un don particulier pour insérer des mélodies populaires dans ses créations. Donc, en fait, on a... alors, je ne suis pas musicologue, mais je sais que d'autres l'ont étudié avant moi. En fait, on a une sorte d'incroyables réseaux de musique traditionnelle qui sont enchâssés en fait dans les valses et qui ont ce pouvoir mélodique très fort que seules les musiques traditionnelles peuvent avoir. Et donc il a cette richesse mélodique qui crée des danses qui sont électrisantes, extrêmement joyeuses. Quand vous avez le cafard, vous écoutez de la valse, je pense que il y a personne qui humainement est capable de résister à la décharge de bonne humeur que donne une valse quand on l'écoute. Et puis il y a aussi la manière dont il interprète ses valses, donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on n'a pas d'enregistrement ni de film, mais on a des chroniques dans la presse de l'époque, et il paraît qu'il avait une façon absolument incroyable de diriger et justement d'électriser la scène et le public et de faire danser les gens, et cela il l'a appris de son père, parce qu'il a regardé son père jouer, il a imité son père qui récitait et qui répétait ses morceaux devant un miroir pour pouvoir soigner sa gestuelle et mesurer quelle est justement l'attitude qu'il allait avoir dans le coup d'archet, dans le regard qu'il allait avoir avec le public, le plus d'effet justement pour conquérir le public. Et ce que l'on sait, c'est que Johann Strauss le père justement s'est beaucoup inspiré de la musique tzigane et donc de la pratique du violon tzigane, et donc qui est une pratique extrêmement démonstrative, très sentimentale. Alors il l'a calmé un peu le jeu, hein, parce qu'un musicien tzigane, ça peut être effectivement ça, mais puissance 10, puissance 100. Mais il s'est inspiré de cette sentimentalité, de cette expressivité du violon tzigane pour diriger lui-même ses propres formations.
Alors sur des musiques dites classiques, beaucoup de mélodies sont connues par énormément de gens. En tout cas, ils retiennent les notes, mais si on demande de nommer, beaucoup vont répondre soit une marque de pub, soit la musique de la CAF ou de la Sécu en attendant d'avoir une personne au téléphone. Et Strauss, pour le coup, non. Strauss, c'est quelqu'un, le nom est connu. Alors, le beau Danube bleu, c'est peut-être le titre, un des titres les plus connus. Comment expliquer cette postérité?
Alors, le beau Danube bleu, effectivement, ça fait peut-être partie du trio des morceaux les plus joués avec l'hymne à la joie, la petite musique de nuit. Voilà, donc, dans toutes les compiles, le classique pour les nuls. je pense que... objectivement, la mélodie est géniale. Enfin, dans les effets de mode, il faut quand même le dire, il n'y a pas juste un effet d'engouement, l'œuvre elle-même est assez exceptionnelle. Et ensuite, c'est là qu'on retrouve Paris, c'est qu'elle a été propulsée, cette œuvre, dans un contexte très particulier, qui est le contexte justement du primat des modes parisiennes, et c'est Paris qui a donné son onction au Beau Danube Bleu au moment de l'exposition universelle de 1867, puisque Strauss l'a composée et l'a fait jouer d'abord à Vienne un an auparavant, ça n'a pas... franchement marché. Il l'a recyclé devant le public parisien. Le public parisien a crié au génie. Et à partir du moment où Paris dit que c'est génial, la planète entière dit que c'est génial.
La belle époque. On était Hollywood, quoi. Et puis après, il y a peut-être aussi pas mal de films.
Alors après, évidemment, c'est une musique qui a été beaucoup utilisée. Kubrick, entre autres. Ça joue un peu aussi.
Alors parlons de votre deuxième activité, parce que je disais que vous aviez écrit donc ce livre qui est sorti en novembre ou en octobre.
Octobre, pour le bicentenaire de la naissance.
Pour les 200 ans de la naissance,
exactement.
Voilà, très bien. Mais vous êtes également correspondante à Paris de la revue The European Conservative. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, comment vous décrirez-vous cette revue, à qui elle est destinée, quels sont les lecteurs, quelle est l'ambition, ça fonctionne comment?
Alors, The European Conservative, c'est deux choses.
Le dit avec un bel accent.
Hey, je suis payée pour ça. Les
éditeurs de Radio Courtoisie.
Tiens, j'ai pas mis de pièces dans tout à l'heure, parce que j'ai parlé allemand, donc maintenant je parle anglais. Oui. Donc on va mettre ça sous le beau vocable du multilinguisme, et donc je suis pardonnée. Donc c'est une revue papier, trimestrielle, et c'est également un site internet, europeanconservative.com. Et donc c'est un projet qui marche sur ces deux jambes. Donc dans la revue trimestrielle, vous allez trouver des articles de fond qui couvrent l'ensemble de toute la pensée conservatrice en Europe. Et alors dans conservateur en Europe, on met énormément de choses. De droite, réactionnaire, monarchiste, traditionnaliste, nostalgique, tout ce que vous voulez. Parce que effectivement, ce mot peut prendre des acceptions extrêmement différentes suivant si vous êtes un Britannique, un Italien, un Polonais ou évidemment un français. Donc dans cette revue trimestrielle, vous allez avoir des articles de politique, de philosophie politique, mais aussi d'art, de culture, de religion, voilà, tout ce qui explore l'extraordinaire vivier de la culture européenne dans toutes ses dimensions et dans, justement dans son projet conservateur. Et puis le site internet, qui là évidemment est beaucoup plus connecté à l'actualité, où vous allez trouver également des articles un peu plus approfondis, mais aussi toute une couverture de l'actualité à travers un spectre conservateur, c'est-à-dire tout ce qui se fait de bien, pour simplement dire les choses, sur notre beau continent, et tout ce qui se fait de mal à Bruxelles, principalement, évidemment, grâce à notre adorable tête à claque que nous mentionnions tout à l'heure. Et donc, on couvre, eh bien, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le jeu des partis, voilà, où en sont les forces politiques en Suède, comment le Danemark réagit à la politique migratoire, qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections en Hongrie, voilà, tout ce qui fait l'actualité conservatrice en Europe, et donc se retrouve sur ce site internet.
Et c'est quoi l'objectif ou l'ambition ?
Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est de créer une plateforme et un lieu de rencontre de toutes ces cultures conservatrices européennes, parce qu'on a évidemment beaucoup à gagner de voir ce qui se fait à l'étranger, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ne pas se sentir tout seul, ça c'est un syndrome malheureusement un peu trop français, que l'on cultive avec une forme de panache, mais qui peut parfois avoir un côté un peu déprimant. Et donc, c'est toujours utile de savoir ce qui se fait ailleurs, ce qui marche à côté. Se nourrir aussi de la pensée extrêmement féconde d'autres penseurs européens. Je pense évidemment à quelqu'un comme Scruton, le très grand philosophe britannique, sur des gens comme Ferenc Erhöher, qui est un Hongrois d'origine allemande, qui justement renouvelle aussi la pensée culturelle en Europe centrale. Voilà. Donc il y a plein de profils dont on a tout à gagner de les connaître, de les apprivoiser. On a eu un article très élogieux dans Le Monde, enfin élogieux pas pour eux, mais pour nous il l'était, qui a analysé le projet de European Conservative il y a cet été, et qui disait, bah voilà, c'est le lieu de rencontre de toute l'élite intellectuelle conservatrice européenne. Donc ça leur donnait des cauchemars nocturnes, mais nous on était très contents d'avoir été identifiés pour ce qu'on a envie de devenir, justement. Mais il y a aussi cet aspect... plutôt pour le site internet, informationnel, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce qui se passe sur les droites et que malheureusement la presse mainstream ne vous dira pas. Les élections hongroises sont forcément manipulées. Mélanie est forcément une fasciste. Tommy Robinson est forcément un foldingo. Voilà, donc ça c'est le discours dominant, mais si vous avez envie d'avoir d'autres informations eh bien, sur ce qui se passe en Europe, au sein de la droite au sens le plus large du terme, eh bien, vous le trouvez chez nous.
Alors justement, vous pouvez peut-être nous donner quelques informations. Vous avez parlé de la Hongrie, en effet, il y a une élection dans quelques semaines, législative,
voilà. C'est ça, exactement, qui va décider du prochain Premier ministre.
Quel est l'état des lieux de la Hongrie aujourd'hui et quels sont les enjeux ?
Alors effectivement, beaucoup de regards se sont tournés vers la Hongrie actuellement parce que Orban occupe une position tout à fait particulière dans l'architecture européenne aujourd'hui. C'est le seul, avec parfois de manière ponctuelle, des associés que sont les Slovaques par exemple ou les Polonais dans une moindre mesure, qui essaye de tenir tête à la machine bruxelloise et qui a essayé au niveau de son pays de mettre en place tout un ensemble de politiques conservatrices, en particulier je pense dans le domaine des politiques familiales. C'est aussi un pays qui, alors même que c'est un petit pays qui a une langue absolument intordable, et j'espère que mes camarades de Magyar me pardonneront, mais c'est vrai, ils le savent d'ailleurs, qui a réussi à créer une forme de soft power qui est justement d'influence culturelle qui est absolument incroyable compte tenu de là où ils partent, si je puis dire. Donc évidemment, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de regards qui sont tournés autour de cette Hongrie. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a un Premier ministre, Viktor Orban, qui a été réélu plusieurs fois et très confortablement. Je rappelle que les dernières élections, elles ont eu lieu en 2022 et comme à son habitude, la presse généraliste nous annonçait une catastrophe pour son parti, le Fidesz, et ça a été en fait un raz-de-marée puisqu'il a recueilli plus de 54% des voix. Et donc, voilà, là, est-ce qu'il va réussir le même coup cette année, en 2026 ? Donc, pour le moment, il y a une véritable bataille d'opinion, une véritable bataille de sondage, parce que effectivement, des organismes indépendants placent le Fidesz en bonne position. D'autres organismes dépendent du gouvernement, donc sont accusés de manipuler les chiffres de manière assez logique par l'opposition. Et évidemment, les sondages de l'opposition vous expliquent tous que TISA, qui est donc le parti opposant à Orban, va emporter l'élection. Donc, personnellement, je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas capable à ce stade de vous dire qui va emporter l'élection. À la décharge d'Orban, il y a un phénomène d'usure du pouvoir, ça fait longtemps qu'il est là, c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'il est vieux, mais il y a une usure du pouvoir. À son avantage, il a redonné une fierté aux Hongrois, dont ils lui sont extrêmement reconnaissants, et il continue de défendre une position d'indépendance de la Hongrie, qui se mesure en espèces sonnantes et trébuchantes. En Hongrie, actuellement, vous n'avez pas l'explosion des prix de l'énergie que l'on connaît. Donc ça, c'est un très gros argument électoral, évidemment, pour l'électeur hongrois moyen. D'un autre côté, vous avez en face donc Péter Magyar, qui est le candidat de centre-droit. Oui, parce que l'opposition à Orban, c'est le centre-droit, hein, donc ça va. Qui est en fait, entre guillemets, le candidat de Bruxelles. C'est-à-dire qu'il promet un alignement complet et la sortie de l'isolement de la Hongrie. Un alignement complet, en fait, sur le discours dominant de l'Union européenne. Et donc, notamment sur la question énergétique, sur la question de l'Ukraine, etc. Et alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Magyar joue un double jeu, c'est-à-dire que quand il est à Bruxelles, il tient le discours que les élites européennes veulent entendre, mais il est obligé d'infléchir son discours quand il est en Hongrie, parce que s'il ne joue pas un minimum la carte de la fierté et de l'indépendance hongroise, ça ne passera pas auprès de l'électorat. Donc, un des axes majeurs de la campagne actuelle, c'est du côté Fidesz, c'est d'essayer de dénoncer l'imposture en disant cet homme en fait va entraîner tout ce contre lequel vous vous êtes toujours battu. Donc c'est une tension, j'en discutais encore récemment avec des personnes placées dans la campagne du Fidesz. Ils me disaient pour le moment on a beaucoup d'incertitudes parce qu'on a évidemment un socle d'électeurs convaincus, un socle des deux côtés et un ventre mou de gens qui ne sont pas encore décidé. Donc, il est à peu près certain que l'élection va être serrée jusqu'au bout.
Donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs, si vous voulez suivre la campagne en Hongrie ou l'analyser à la suite de ces résultats, vous pouvez écouter France Inter. Mais ensuite, vous allez vérifier sur le site The European Conservative.
C'est un peu ça l'idée.
Merci beaucoup, Hélène de Lauzin. Je rappelle votre livre, Johann Strauss, l'empereur de la valse chez Talendier. Et je rappelle que vous êtes donc correspondante à Paris de la revue. J'ai déjà oublié la périodicité.
Trimestriel,
The European Conservative, qui est une très belle revue. Les couvertures rappellent d'ailleurs beaucoup celles de The New Yorker. Il y a toujours des très beaux dessins. C'est un papier qui est très, très...
c'est un bel objet, exactement. Qu'on a envie de garder.
Exactement, c'est un bel objet, c'est très épais, c'est très bien. Il y a un beau pelliculage. Bref, vous en avez pour votre argent. Et si vous voulez suivre donc, toute l'actualité européenne, notamment ce qui se passe dans nos pays amis ou pas amis, vous allez sur le site The European Conservative. Merci beaucoup, Hélène de Lauzin.
Merci beaucoup, Arthur, pour cette invitation.
Et nous, chers auditeurs, on se retrouve dans quelques minutes.